Seigneur, nous prions que pendant que nous partageons ta parole, ben Seigneur, le Saint-Esprit accompagne, prenne le relais. Tu es Dieu. Nous saluons, comme nous l'avons chanté, nous saluons ton nom, nous apprécions ton nom. Et Seigneur, lorsque nous partageons la parole de vie, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, continue aussi son travail. Amen, alléluia. Là, Barthélémy, tu as vu la Bible que c'est que hein, tu m'avais emmené dans un musée à New York. Et donc, c'est une version Gutenberg, c'est ça? Voilà. OK, très bien. Alors, vous savez que lorsque je partage la parole de Dieu avec vous, j'aime vous montrer aussi où on en est dans les traductions de la Bible. Parce que ça avance tellement, tellement vite, tellement vite. Et là, aujourd'hui, il y a 805 Bibles entières traduites. Et puis, vous voyez les Nouveaux Testaments, tout ça. Il y a 2 Bibles en plus que le mois dernier. Et puis, je crois qu'il doit y avoir quelque chose comme 5 Nouveaux Testaments en plus. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait une Bible nouvelle ou un Nouveau Testament nouveau, en fait, tous les 3 jours. Hein? On avance très, très vite. Très, très vite dans la traduction de la Bible. Et bien sûr, ce verset, vous le connaissez, je vous le montre souvent. Hein, cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les ethnies. Alors viendra la fin. Je vous ai fait, comme d'habitude, ce petit montage. Et puis, vous voyez que les langues qui restent dans le projet de traduction, eh bien, il n'y en a plus beaucoup et ça représente un nombre très, très réduit de personnes. Voilà. OK. Bon. Le papier qui est là-bas, dans le fond, sur les présentoirs, il est en retard puisqu'il date de quelques semaines et on est à 796 Bibles hein, entières. Voilà. Traduites. OK. Si j'avais un titre à donner de ce que je vais partager, ce sera un peu rebondir un peu sur ce qu'on a partagé la dernière fois. Méditer et vivre émerveillé. Voilà. Donc, quand on lit les évangiles, nous voyons les disciples qui recherchent généralement la présence de Jésus. Ils prennent cette habitude d'être avec Jésus. D'ailleurs, quand Jésus n'est pas avec eux ou veut avoir un moment tranquille, on va dire quelque part, ils ne sont pas trop contents. Voilà. Et après le départ de Jésus, c'est-à-dire après la résurrection et après l'ascension, nous voyons les apôtres continuer à développer cette habitude de prendre du temps avec Dieu. Ainsi, dans Actes 10, nous voyons l'apôtre Pierre prendre du temps pour prier. Il est dans la ville de Joppé et il grimpe sur un toit. Alors, vous savez, c'est le Moyen-Orient, c'est des toits en terrasse. Donc, il grimpe sur un toit pour avoir donc un temps avec Dieu. Or, c'est intéressant parce qu'il est dans la ville de Joppé où il évangélise. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a un grand réveil dans la ville de Jérusalem. On estime qu'il y a femmes, enfants, hommes, etc., bien plus de 20 000 personnes dans l'église à Jérusalem et où il y a un vrai réveil. Et il prend du temps pour prier. Et on sait que là, Dieu va lui parler d'une façon nouvelle, comme Dieu ne lui avait encore pas fait, et il va recevoir une extase qui va bouleverser les façons de faire du christianisme. Tout au long des 1000 pages environ de la Bible, Dieu nous encourage à prendre du temps avec lui. Alors, je vous ai mis un passage biblique, là, et c'est un tout, ce passage biblique, parce que souvent, on le lit en morceaux. Tout d'abord, il est dit « Réjouissez-vous toujours ». C'est le verset le plus court de la Bible, dans le grec, hein, je ne parle pas du français. C'est le verset le plus court de toute la Bible. « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en toutes choses, rendez grâce, car telle est la volonté du Christ Jésus à votre égard, n'éteignez pas l'esprit. » Alors, ce passage, quand on le lit dans sa globalité, c'est intéressant, parce que quand il est dit « Priez sans cesse », on voit que ça vient juste entre eux. Réjouissez-vous toujours ou réjouissez-vous sans cesse, voilà. Et puis, rendre grâce, c'est-à-dire que la prière va avec de la joie en Dieu, avec de la louange, avec j'allais dire un esprit positif, avec de la reconnaissance. Et puis ensuite, il est dit, bah, autrement, n'éteignez pas l'esprit. Alors souvent, on a, souvent, on a mis n'éteignez pas l'esprit avec le verset suivant, où il est dit de ne pas mépriser les prophéties. Comme ça, voilà, comme ça, on parle du prophétique. Mais en fait, le texte ne présente pas la chose comme ça. Hein? N'éteignez pas l'esprit, ça vient après. Réjouissez-vous toujours et priez sans cesse et rendez toujours grâce. C'est un tout dans la prière. Voilà. Et nous pouvons donc, la Bible nous dit, attrister le Saint-Esprit, comme il est dit dans Éphésiens, ou nous pouvons même éteindre l'esprit lorsque nous prions autrement que ce que Dieu aimerait. Parce que bien sûr, on peut prier, on peut réciter des prières, on peut prier de façon, je le dirais, religieuse, on peut organiser une religiosité, mais la Bible dit, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en toutes choses, rendez grâce. Alléluia. OK ? Donc, Dieu nous encourage à prendre du temps avec lui, il nous encourage à lire sa parole pour avoir les pensées de Dieu, pour grandir, comme dit l'apôtre Pierre, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de son caractère, comme je le dis souvent, dans ses façons de faire, dans son style. Parce que Dieu, il a un style, il a ses façons à lui, il a ses façons de penser, il a ses façons de faire. Et on connaît bien ce passage dans le livre de Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors, comme je le dis souvent, normalement, on ne lit pas avec la bouche. On lit avec les yeux. Hein? Voilà. Mais là, la Bible dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit, car alors, tu feras réussir tes voies et tu prospéreras. Voilà. Et puis, je vous ai mis le psaume 1, qui est bien connu, où il est dit « Bienheureux l'homme » ou la femme, bien sûr, « qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi nuit et jour. » Méditer la parole de Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie une réflexion concentrée, répétée, appropriée, lente sur un texte, sur une pensée. C'est prendre à cœur la parole, c'est la repasser, elle a repassé dans son cœur, c'est repasser le texte dans son cœur jusqu'à ce qu'il se mette en mouvement. Et je vous ai mis un peu d'hébreu, c'est les vacances, je me suis dit, je vais leur donner un peu d'hébreu ce matin. Vous êtes d'accord? D'accord. Ok, c'est bien. Si vous êtes d'accord, vous me dites shalom. Voilà. Voilà. Ok. Donc, le mot pour méditer, c'est méditer, mais il y a plusieurs mots pour méditer en hébreu, mais dans les deux passages que je viens de vous mettre là, c'est le verbe « haga », qui implique une répétition à voix, d'où le mot « bouche », une répétition à voix basse. Le verbe « haga » est parfois traduit dans d'autres passages par « murmurer ». Ça sous-entend que la parole de Dieu, quand je la médite, je me la répète. Je me la répète à haute voix, ou bien je me la murmure. Voilà. D'où l'importance aussi parfois, comme on le dit souvent, d'apprendre des passages bibliques par cœur. Murmurer la parole de Dieu. Alors c'est intéressant, je vous ai mis ça en dessous, en français, en lettres françaises bien sûr. Hein. Aga, ça veut dire donc méditer, murmurer, mais c'est intéressant, il y a plusieurs mots pour dire rugir pour un lion en hébreu, mais il y en a un, c'est aga. Le lion, il médite. C'est le mot aga, voilà, pour rugir. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais c'est aussi parfois dans le livre d'Ésaïe, c'est roucouler pour une colombe. C'est donc aussi un verbe qui est utilisé parfois pour des animaux. C'est intéressant quand c'est pour un lion, comme dans par exemple Ésaïe 31, c'est qu'un lion, quand il hurle, il rugit de joie quand il a capturé une proie. C'est intéressant, ça. Parce que, bien sûr, l'hébreu qui lisait la Bible comprenait que c'était le même mot. Méditer et puis rugir de plaisir. Je ne fais pas de pub pour une marque. Hein. Rugir de plaisir lorsque j'ai capturé une promesse de la Bible. Alléluia. Mais c'est ça l'idée. Hein. C'est ça l'idée. OK ? Voilà. Et puis, le roucoulement de la colombe qui nous parle du Saint-Esprit. Et parfois, dans les psaumes, ce fameux verbe « aga », qui finalement veut dire beaucoup de choses, eh bien, il est aussi traduit par « chanter, célébrer ». C'est-à-dire que lorsque Dieu nous demande de méditer la parole de Dieu, de murmurer la parole de Dieu, de rugir la parole de Dieu, de roucouler la parole de Dieu, de célébrer et de chanter la parole de Dieu. C'est pour ça que je regardais les paroles dans les chants ce matin avec Mélanie. Eh bien, il y a des passages où ça reprenait des passages qu'on trouve dans les psaumes. Hein. Voilà, je me disais, c'est bien. En fait, c'est souvent comme ça, les cantiques, n'est-ce pas? Voilà. Et je vous ai mis aussi en haut à droite ce fameux verset, « L'homme, l'être humain, littéralement, anthropos, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà. Dieu veut que nous nous nourrissions, et comme je le dis, de pain complet. C'est-à-dire, tu ne prends pas quelques passages bibliques qui t'intéressent toi, avec lesquels tu es d'accord toi. Tu prends du pain complet. Alléluia. Voilà. Hein? Voilà. Alors, je dirais une chose, lisez la Bible vous-même en écoutant le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a donné la Bible. C'est lui qui a écrit la Bible. Écoutez le Saint-Esprit. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit lorsque vous lisez la Bible. Vous pouvez éventuellement consulter des commentaires, mais jamais avant. Après, éventuellement. Parce que les meilleurs enseignements que vous aurez, moi, dans ma vie personnelle, les meilleurs enseignements que j'ai eus, ça n'a jamais été dans des commentaires. Et pourtant, j'en ai lu beaucoup et je lis beaucoup de livres. C'est Dieu qui me les a donnés, quand je disais la parole de Dieu. Les meilleurs commentaires appropriés à votre vie personnelle, à ce que vous vivez aujourd'hui, à ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est ce que vous lirez vous-même dans la présence de Dieu en écoutant le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, je vous ai mis cette phrase du célèbre réformateur Jean Calvin qui disait, en parlant de la lecture des Saintes Écritures, alors ça, j'ai trouvé cette citation, écoutez ce qu'il dit en parlant de la lecture des Écritures, il dit, c'est comme si nous contemplions à l'œil l'essence de Dieu. C'est-à-dire, pour Calvin, lorsqu'il ouvrait la Bible, il avait l'impression qu'il regardait dans les yeux la nature même de Dieu, l'essence même de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Ça veut dire Dieu qui te parle et tu vois la nature même de Dieu. Voilà, alléluia. Je vous ai mis une phrase aussi de ce fameux homme de Dieu, vous savez, qui a été un grand missionnaire et qui a nourri, habillé par la foi des milliers d'orphelins. Et Georges Müller disait ceci, je vais simplement lire cette phrase. La vigueur de notre vie spirituelle sera toujours en proportion exacte avec la place que tient la Bible dans nos pensées et dans nos actes. J'ai lu la Bible une centaine de fois avec toujours plus d'émerveillement. Et puis il dit, Georges Müller, elle m'apparaît chaque fois comme un livre nouveau. Nous le savons bien lorsque nous lisons la Bible, n'est-ce pas? Combien de fois il vous est arrivé? Combien de fois il m'est arrivé? Bon, je vais lire la Bible ce matin, j'ouvre la parole de Dieu, puis je me dis, bon, ce chapitre-là, je le connais. Je le pourrais réciter par cœur, je sais ce qu'il y a dedans. Et puis je le lis, et à peine j'ai lu 3-4 lignes, d'un seul coup, Dieu me fait sortir par le Saint-Esprit une expression, une phrase, un mot que je n'avais jamais vu comme ça. Alors que ce passage-là, je l'ai peut-être lu plus de 100 fois. Et puis, c'est la façon avec laquelle Dieu me parle aujourd'hui. Alléluia. Alors, je vous dirai ceci. Ayez votre Bible avec vous et ayez votre Bible avec vous le dimanche au culte. Je sais, ce n'est pas bien ça. Maintenant, on met les versets bibliques sur écran, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir votre Bible sur téléphone, tout ça. Mais moi, je vous encourage à avoir votre Bible au culte, avoir votre Bible dans votre groupe de maison. Ayez une Bible dans votre voiture. Parfois, vous pouvez passer du temps dans la voiture, pas pendant que vous conduisez, mais parce que vous attendez sur un parking, ou bien voilà, vous attendez quelqu'un, et vous prenez du temps à lire la Bible. Ayez une Bible à portée de main pour profiter d'un temps spécial. Et puis la Bible, personnalisez-la. Alors, bien sûr, vous avez la Bible sur votre portable, moi aussi, je regarde la Bible sur mon portable, mais ayez une Bible que vous personnalisez, c'est-à-dire vous soulignez des passages, comme ça vous les retrouvez facilement après. Vous pouvez les souligner de diverses façons, tout ce qui touche sur la grâce, le pardon, l'œuvre de Christ à la croix. Moi, je souligne en rouge, ce qui parle du ciel, de l'éternité, tout ça, je souligne en bleu. Les promesses, je les souligne en vert, etc., etc. On a notre code, n'est-ce pas ? Colorier, encadrer, mettez des notes ou des versets bibliques en parallèle. Ayez votre propre schéma de parallèle dans vos marges. Tel passage biblique, eh bien, vous rappelle tel autre passage et vous les retrouvez facilement. Personnalisez vos Bibles et surtout, mémorisez des versets. Mémorisez des versets. Vous savez que j'aime beaucoup répéter qu'en plein Moyen-Âge, des chrétiens évangéliques français qu'on appelait des cathares, qui étaient de véritables chrétiens évangéliques, ou des vaudois, ou des bogoumiles, etc., 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 eh bien, ces gens avaient l'habitude d'apprendre des passages bibliques par cœur. Ils n'apprenaient pas des versets, puisque la Bible n'était pas encore découpée en chapitres ou en versets. Ils apprenaient, par exemple, tout l'évangile de Matthieu. Et souvent, des enfants de 10 ans, 12 ans, pouvaient apprendre et réciter par cœur tous les Nouveaux Testaments de la Genèse à l'Apocalypse. Aujourd'hui, même des pasteurs, ils ont du mal de réciter par cœur tout le Nouveau Testament, vous êtes d'accord, hein? Voilà. OK. Je voudrais simplement poser une question. On est entre nous ici ce matin, ce n'est pas filmé, mais qui ce matin ici présent a sa Bible en papier? Qui l'a levé la main? OK. Alors, j'ai mal posé la question. Baissez. Qui n'a pas sa Bible en papier comme ça? Qui ne l'a pas? Levez la main. Vous vous rendez compte? Je sais, Johanna, elle va me dire après ce soir, elle m'a dit, papa, il ne faut jamais poser des questions comme ça parce que tu plombes les gens. Non, non, non. Je vous encourage, venez avec vos Bibles. Venez avec vos Bibles. Je vous ai mis ce passage dans la première épître de Jean où il est dit, je vous écris, jeune Jean, parce que vous êtes fort. Tiens, je peux être jeune dans la foi et être fort. Parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. Le terme est au passé, mais dans le grec, il est aussi au présent. Alors, il faudrait dire, parce que vous avez vaincu et que vous avez la victoire régulièrement sur le méchant. Parce que la parole de Dieu habite en vous. J'aime beaucoup ce passage que j'ai souligné dans ma Bible, dans le livre d'Ésaïe, où il est dit, cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. Je vous encourage, bien sûr, à faire cela. Alléluia. Alléluia. Alors, oui, cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez, et faites-le régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'être renouvelé. On a besoin de nourriture. On a besoin, la parole de Dieu, c'est comme du pain, hein, comme il a dit tout à l'heure, du pain complet. Mais si le pain complet, il reste un bout de temps comme ça, sans être mangé, ruminé, digéré, etc., etc., ça devient du pain rassis, ça devient du pain pourri. Souvenez-vous, dans le livre de l'Exode, Dieu avait demandé aux Hébreux de prendre la manne tous les jours. Parce que la manne, elle moisissait si on ne la mangeait pas tout de suite. De même, dans la présence de Dieu, il faut qu'on soit rafraîchi. Il faut que l'on ait la portion de pain complet tous les jours. Chez moi, enfin, c'est plus chez moi maintenant, parce que la maison maintenant est un de mes enfants, mais voilà. Tu as déjà du courrier pour toi, tiens, tu m'y feras penser. Voilà. Donc, la maison, j'ai des haies, tout ça, et j'ai beaucoup de mûres, vous savez, des fruits rouges, des mûres. J'en ai beaucoup, j'en ai énormément. Un peu moins cette année à cause de la canicule, mais j'en ai beaucoup. Voilà. Et là, j'en avais, et puis j'en mets dans le congélateur, etc., etc., et puis j'en mets dans mon frigo, et je mets des bols. Voilà, puis je remplis des bols. Puis après, je me fais des desserts, tout ça pour moi, etc. Voilà. Hein? Et puis là, il y avait un bol qui était resté au frigo et il était resté 2 jours. Et quand je l'ai pris, dans mon frigo, les mûres étaient moisies. Donc, ce n'était pas consommable. Voire même, c'est mauvais pour la santé, vous êtes d'accord, hein? Donc, bien sûr, j'ai jeté tout ce qui était moisi. Mais tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin d'une nourriture fraîche. Tu as besoin de lire la parole de Dieu régulièrement. Tu as besoin de pain frais, de pain complet, tous les jours, pour toi. Et si tu n'as pas cela tous les jours, ça veut dire que le pain que tu as mangé d'avant, que tu ne peux pas le vivre avec comme ça parce qu'il va moisir, il va s'abîmer. Ça ne te nourrira pas. D'accord ? Donc, lisez vos Bibles. Et la Bible dit que cette connaissance de la Bible nous aide à grandir dans la connaissance de Dieu et dans la relation avec lui. Alors, on va mettre une autre image. C'est Rick Joyner qui dit ceci. La Bible est un moyen, non une fin. Notre but n'est pas de connaître simplement le livre du Seigneur. Eh bien, c'est bien de connaître sa Bible, mais le but, ce n'est pas de connaître la Bible, ce n'est pas de connaître le livre du Seigneur, mais de connaître le Seigneur du livre. Ah oui, mais ça change beaucoup de choses. Vous avez des gens qui peuvent vous réciter par cœur des passages bibliques, mais qui, en fait, sont très éloignés de Dieu. On sait très bien que les gens qui ont levé la main pour la crucifixion de Jésus, c'était des Sadducéens et des Pharisiens qui connaissaient vraiment très bien la Torah et dans les textes originaux, s'il vous plaît. Mais ils ont demandé à ce que leur Messie, leur Sauveur, soit crucifié. Hein? OK. Donc, en latin, je vais vous faire un petit peu de latin aussi. On va faire du français, de l'hébreu et du latin ce matin, d'accord ? Je me suis dit, ils sont en vacances. Il y a des, comment on appelle ça, des cours de vacances, c'est ça ? Hein ? Donc, on fait un peu d'hébreu, un peu de latin, puis un peu de grec, comme ça. Voilà, tout le monde sera content. Voilà. Hein ? En latin, religare a donné le mot religion, religio. Et religare, ça veut dire lier, relier, entretenir une relation. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le mot religion, il a un sens souvent péjoratif et même souvent négatif. C'est synonyme de tradition, de rituel, de liturgie, de routine et d'habitude religieuse, de pharisaïsme, d'hypocrisie hein, et de légalisme. Une vie chrétienne authentique est synonyme d'intimité avec Dieu et d'une relation entretenue avec Dieu, d'une véritable connaissance de l'excellence de la personne de Dieu et de ses habitudes et de ses façons de faire. Alléluia, alléluia. Et de son caractère. Or, ça implique, je le dis très souvent, j'en parlais encore avec Johanna dernièrement, un véritable émerveillement devant la personne de Dieu et devant l'excellence de sa personne. Je dirais ceci, ébloui et émerveillé devant Dieu, c'est ça la vraie foi. Et je dirais, ne te moque pas de Dieu. Tu peux avoir un vernis religieux. On est censé non pas suivre un code de loi, on est censé être ébloui et émerveillé devant un Dieu merveilleux. On connaît bien ces passages. Un moment dans la présence de Dieu peut tout changer. Combien de fois il y avait des situations compliquées, des situations difficiles, des situations délicates, et puis je me suis mis à genoux devant Dieu, j'ai pris un temps devant Dieu. Je n'ai même pas dit un mot à Dieu. Je me suis simplement mis dans sa présence. C'est comme quand vous vous baignez et que vous descendez dans votre baignoire. Vous n'êtes pas obligé de prier quand vous vous baignez. Vous descendez dans la baignoire et vous êtes mouillé. Quand Marina, elle a été dans sa baignoire, elle a été mouillée. Hein? Et ensuite, le petit, quand il est sorti, il était mouillé aussi. Hein? Voilà. OK. En tous les cas, ces versets que nous aimons beaucoup, que nous citons beaucoup, on va simplement les reciter, nous tous contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, je vous ai mis transfigurés, métamorphose, ça veut dire littéralement métamorphosés, en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, en esprit ou par l'esprit. Voilà. Nous prenons du temps avec Dieu, nous sommes dans sa présence. Et comme je vous disais, combien de fois là, je me mets dans la présence de Dieu et puis... Je ne dis même rien à Dieu parce que c'est tellement énorme tout ça et je sais même qui connaît la situation et qui connaît mon cœur. Et puis au bout d'un moment, je constate que mes pensées sont complètement différentes, que mon cœur est complètement différent et je passe parfois du temps admiratif devant Dieu et parfois du temps à rire dans la présence de Dieu. Or que la situation n'a pas changé. Mais moi, j'ai changé. Parce que je me suis trempé dans la présence de Dieu. Hein? Alléluia. Alléluia. Et ce verset que j'aime beaucoup, le dernier verset du psaume 16, c'est le 11, le 12 sont les traductions. Tu me feras connaître le chemin de la vie, c'est ce fameux verset sur lequel prêche l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Ta face est un rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. comme je le dis très souvent ici, toute ma vie va dépendre de ce que je pense au sujet de Dieu, de ce que je pense au sujet de l'excellence de la personne de Dieu. La foi véritable ne se résume pas en quelques informations doctrinales sur Dieu, mais la foi véritable implique un émerveillement devant l'excellente personne de Dieu, devant la magnificence de la gloire et de l'infinitude de Dieu, et devant la profondeur stupéfiante de l'œuvre de Christ à Golgotha. Je vous ai mis une phrase, je crois, plongée dans l'émerveillement. La foi authentique est tout imbibée de paix, de joie, de repos, de patience et d'un profond sentiment de sécurité et de confiance. Ça, c'est en étant dans la présence de Dieu. Voilà. Alléluia. Alors, je vais vous mettre l'image numéro suivante. Voilà. Alors, donc, ce sont les vacances, un petit cours de vacances, un petit cours de français et d'hébreu. Donc, vous savez que la langue française, le vocabulaire français, fonctionne beaucoup avec des radicaux, des préfixes et des suffixes. Les suffixes, d'ailleurs, les préfixes, peuvent beaucoup changer le sens des termes. Par exemple, former peut donner déformer, formation, transformation, déformable, désinformation, réforme, méforme, etc., etc. Mais on sait que simplement un préfixe peut complètement changer un mot. Par exemple, former, c'est bien différent que déformer. Voilà. Donc, Noémie, le grec utilise beaucoup les préfixes hein, et les suffixes. D'ailleurs, je trouve que le grec, il abuse un peu des préfixes, d'accord ? Parce qu'il en met un, il en met deux, il en met trois, il en met un. Et donc, le sens des mots change beaucoup en grec. Voilà, mais en français aussi. Voilà. OK. Alors, en hébreu, c'est différent. Parce que l'hébreu ne joue pas sur les préfixes et suffixes, il joue sur des racines. Alors, c'est un morceau qui est là. Je vous ai mis trois lettres. Je vous ai mis donc la première lettre que vous voyez. Donc, il faut lire de droite à gauche. Hein. Vous avez donc un kof, un daled et un shin. Voilà. On dirait un q, un d et puis un che, un son che. Voilà. Et puis, en regardant un petit peu dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous savez, parfois Dieu, il vous parle, il vous touche avec des choses comme ça. Parce que dans le monde religieux, il peut y avoir des apparences. Il peut y avoir des apparences. Quelqu'un peut vous sembler bien religieux, bien au top. Il a presque le vocabulaire chrétien. Mais vous dites, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il a son vernis religieux, mais en même temps, il n'est peut-être même pas chrétien du tout. Hein? OK. Alors, je vous ai mis un mot, vous voyez, en hébreu, le mot kadosh, qui veut dire saint. Alors, en hébreu, pourquoi je vous mets les racines? Parce qu'en fait, en hébreu, on ne lit pas, on peut écrire sans les voyelles. Si vous allez, par exemple, à Jérusalem, si vous voyez les pancartes, si vous prenez les journaux, souvent, vous n'avez que les consonnes. Or, ce n'est pas évident, il faut connaître les mots par cœur. Sinon, vous pouvez faire de gros contresens. Hein? Voilà. Et puis, il y a les voyelles. Alors, les voyelles, elles sont en dessous, au-dessus, et rarement, elles peuvent être entre les consonnes. D'accord. Et puis, en fait, ces fameuses consonnes, ça constitue ce qu'on appelle des racines. Et ça correspond à notre radical, vous voyez. Or là, par exemple, le fameux kof, le dalet et le shin, vous mettez un a, vous voyez, hein, en fait, c'est un kamatz en hébreu, voilà. Et puis vous mettez un o, voilà, et ça vous donne kadosh. Kadosh, ça veut dire saint. Saint pour Dieu, saint pour quelqu'un qui est saint, le Dieu trois fois saint, etc. C'est le mot kadosh, voilà. Et puis en fait, vous avez la même racine. La même chose, la même racine. Mais en fait, au lieu d'avoir un O, vous enlevez le O et vous mettez ce qu'on appelle en hébreu un tseré, c'est-à-dire un E. Et ça vous donne un mot qui ressemble. C'est presque ça, mais ce n'est pas ça. C'est Kadesh. Ce n'est pas Kadosh, c'est Kadesh. Et Kadesh, en hébreu, ça veut dire prostituée. Alors, ce n'est pas n'importe quelle prostituée, parce que la femme prostituée dans les rues, c'est un autre mot, c'est un autre, je crois. C'est ce qu'on trouve dans le Deutéronome, dans les livres des rois, dans le livre de Job. Mais c'est les prostituées, le mot est dans la Bible, vous savez, c'est dans l'Antiquité, les hommes et les femmes aussi, souvent les hommes avait l'habitude d'aller dans les temples sacrés pour se prostituer avec des prêtres. C'était leur façon d'honorer les divinités païennes. C'était très courant. C'est très courant chez les Grecs, très courant chez les Romains et très courant chez tout un tas de civilisations de l'époque. Voilà. Alors là, vous avez juste, vous voyez les deux petits points qui sont en dessous, ce qu'on appelle le tseré, hein ? Eh bien ça, ça vous change tout. De quelqu'un qui est saint, vous avez quelqu'un qui est prostitué. Et en lisant ça, donc c'est la même famille de mots, les deux noms se ressemblent, mais en fait ils sont différents et ont des sens très éloignés, comme formé et déformé. C'est la différence entre une vraie relation avec Dieu, une vraie intimité avec Dieu, puis l'hypocrisie, ou un vernis religieux, quelqu'un qui a son petit monde religieux à lui, mais qui en fait n'est pas dans une vraie relation avec Dieu. Voilà. Être informé sur Dieu, avoir quelques renseignements sur Dieu, connaître quelques versets bibliques sur Dieu, ça ne signifie pas du tout être transformé par l'émerveillement envers Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des pharisiens qui ont crucifié Jésus. Alléluia. Dans l'excellence de sa personne, Dieu est formidable et Dieu est merveilleux. La Bible nous dit que Dieu est amour. Ça fait partie de sa nature. Je dirais que ça fait partie de sa matière, de l'essence même de Dieu. Ce pupitre-là, il est en plastique. Dieu, il est en amour. Alors, bien sûr, parfois des gens disent « Oui, mais s'il se passe ci, s'il se passe ça, si des gens font la guerre, si des gens se tapent dessus, si des gens se trompent les uns les autres, ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est l'être humain qui fait ça. On sait qu'un jour, Dieu va tout arrêter. Hein? Mais Dieu est amour et toute la Bible nous dit que Dieu, il est rempli. Il est rempli de quoi ? De bonté et de compassion. Souvent, nous voyons dans les évangiles Jésus être saisi de compassion, littéralement saisi jusque dans les entrailles devant les problèmes des gens. Quelqu'un me disait dernièrement qu'il ne croyait pas du tout à la bonté de Dieu et qu'il ne pensait pas que Dieu était bon. Je dirais qu'elle manque de réflexion, qu'elle manque d'information et puis quel orgueil. Parce que penser que Dieu existe et constamment soupçonner Dieu d'incompétence, de méchanceté, de manque de sagesse et de manque d'intelligence, je dirais quel orgueil. Et quel orgueil de se croire meilleur et plus intelligent que Dieu. Alors j'ai voulu simplement relever, sans trop les commenter d'ailleurs, quelques versets qui parlent de la bonté de Dieu, même si, psaume 145, il est dit, « L'Éternel est bon envers tous, envers tous. » Même quand Dieu tape sur la table et qu'il pointe le doigt sur le méchant, il aime le méchant. D'ailleurs, c'est pour ce méchant-là qu'il est monté sur la petite colline de Golgotha pour donner sa vie pour lui. Il ne faut pas oublier ça. Hein ? Pas oublier ça. L'Éternel est bon envers tous, ses compagnons, ses compassions sont sur toutes ses œuvres. Tout ce que Dieu fait, il le fait bien et il met beaucoup d'amour, de compassion sur tout ce qu'il fait. Il n'y a jamais un moment où il s'est troué, comme on dit. Hein? Si tu crois en Dieu, tu crois cela parce que Dieu, il est comme ça. Alors, il se peut qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas ou qu'on ne comprenne pas tout de suite ou que Dieu ne nous a pas encore expliquées. Hein? Psaume 145, toujours, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il est bon dans toutes ses œuvres. Oui, le fameux psalmiste Ethan témoignait et chantait dans le psaume 89 « Je chanterai à toujours les bontés de l'Éternel. De génération en génération, je ferai connaître de ma bouche ta fidélité. » Dis-toi une chose, lorsque tu réfléchis sur ce qui s'est passé dans ta vie, sur ce qu'il se passe aujourd'hui dans ta vie, sur là où tu en es, là où en sont tes gosses, là où en est ton conjoint, là où en est ton chien et ton poisson rouge, dis-toi une chose, c'est que Dieu aime tout le monde et il est rempli de bonté envers tout le monde et il est fidèle envers tout le monde. et Dieu sait ce qu'il fait. La Bible célèbre de trop nombreuses fois la bonté de Dieu. Par exemple, dans le psaume 136, le psaume 136 commence comme ça. « Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bonté meurt. » Hein? Les préfixes. Oh, les préfixes. « Demeure à toujours. » Et le psaume 136 se termine par « Célébrez le Dieu des cieux, car sa bonté demeure à toujours. » Et 26 fois dans ce psaume 136, c'est répété. Voilà, sa bonté demeure à toujours. C'est intéressant parce que 26 dans la Bible, vous savez, il y a des chiffres très symboliques dans la Bible, comme le chiffre 3, le chiffre 7, hein, voilà. Et il y a le chiffre 26, c'est un chiffre très symbolique parce que c'est la valeur. Vous savez que les Hébreux ne comptaient pas, c'était comme les Grecs, ils ne comptaient pas avec des chiffres, ils comptaient avec des lettres. D'accord ? Donc chaque lettre avait une valeur numérique. Et la valeur numérique de Yahweh, qu'on traduit par l'Éternel, c'est 26. Et quand il est question dans la Bible de la bonté de Dieu, dans ce psaume 136, on le répète 26 fois. Tout est comme cela dans la Bible. Hein ? Voilà, c'est intéressant. OK. Donc, louer et adorer Dieu, nous pouvons le louer à froid. Parfois, je dirais, tu n'as pas trop envie de louer Dieu, ou bien il t'arrive un truc que tu n'as pas trop compris, ou bien, voilà. On peut louer Dieu à froid, on commence, c'est comme un moteur, hein. C'est comme un moteur diesel, parfois. Tu commences, tu le fais tourner, puis après ça va. Hein. Donc, mais tu peux aussi le louer à chaud, bien sûr, tu peux le louer à froid. Comment tu fais ? En commençant par réfléchir, par méditer sur l'excellence de sa grandeur et de son infinitude. Soyez émerveillés par lui. Soyez émerveillés par les perfections de sa personne. Travaillez votre intimité avec Dieu. Travaillez votre détente et votre repos en Dieu. Travaillez la présence de Dieu. Cultivez la présence de Dieu. Méditez sur la grandeur et l'amour de Dieu. Soyez émerveillés et éblouis par l'excellence et la magnificence de la personne du Dieu vivant. Je vous ai mis deux versets, le psaume 100, où il a dit « Poussez des cris de joie vers l'Éternel toute la terre, servez l'Éternel en râlant, mais en montrant de la bonne volonté. » Non, c'est dit comme ça dans l'hébreu ? Non. « Servez l'Éternel avec joie, venez devant lui avec des chants de triomphe et votre Bible sous le bras. » Psaume 107, j'aime beaucoup ce psaume 107, j'ai pris un verset, mais il y a tellement de formidables, qui célèbre l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils et les filles des hommes. Alléluia. Alors, bien sûr, on pourrait prendre des tas d'autres versets, simplement lire ces passages qui nous parlent de la bonté. Dieu est comme cela. Il est comme ça dans sa nature. Il est comme ça dans son identité, dans sa matière. La Bible dit dans son essence. Dans son essence. Hein? Voilà. Il est dit, poussez des cris de joie vers l'Éternel quand tout va bien. Poussez des cris de joie toute la terre. Éclatez d'allégresse, exultez avec chants de triomphe et psalmodiez, chantez des psaumes. Psaume 97, l'Éternel règne. C'est ça la foi. Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la tuile qui est tombée du toit et qui m'est tombée dessus. Je ne comprends pas. Mais il est dit, j'ai confiance en une chose, il est dit, l'Éternel règne. L'Éternel règne. Que la terre s'égaye, que les îles nombreuses se réjouissent. Battez des mains, vous tous les peuples. Poussez des cris de joie vers Dieu avec une voix de triomphe. Parce qu'en faisant ça, tu honores Dieu et tu es dans la vérité. La foi, c'est cela. Être émerveillé et étonné devant Dieu et le dire. Le psaume 66, poussez des cris de joie vers Dieu, toute la terre. Chantez la gloire de son nom. Rendez, j'aime beaucoup ce passage, Johanna doit l'aimer aussi, rendez glorieuse sa louange. Alléluia, alléluia. Et puis ce verset, ce passage biblique, pardon, que je ne vais pas trop commenter, mais on va le lire quand même, qui est dans les psaumes, mais qui est aussi dans 1 Chronique 16. Chantez à l'Éternel toute la terre. Annoncez de jour en jour son salut, sa guérison,
ses bénédictions. Raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples, ses œuvres merveilleuses. La majesté et la magnificence sont devant lui. Prendre du temps dans la présence de Dieu. Prendre du temps dans la présence de Dieu. La majesté et la magnificence sont devant lui. La force et la joie sont dans le lieu où il habite. Et où il habite Dieu ? Dans l'Église. Où il habite Dieu ? En toi, si tu es venu pour lui donner ta vie et pour recevoir ce pardon qui a été acquis à Golgotha. La majesté et la magnificence et la joie. Je passe ce verset du livre de Sophonie que l'on connaît très bien ici, où il est dit que Dieu, lorsqu'il pense à moi, il gambade dans le ciel. Parce que Dieu, il est comme ça. C'est la nature de Dieu. Dieu gambade dans le ciel. Alléluia. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom. Apportez une offrande et entrez devant lui. Adorez l'Éternel en sainte magnificence. Quel programme magnifique et glorieux. Quelle joie de savourer tant de perfection, de joie et de magnificence. Tout travail pastoral, comme je le disais, je crois, la dernière fois, tout travail pastoral consiste à toujours traiter la relation avec Dieu d'abord, pour ensuite traiter des questions de victoire sur le péché. Toujours, toujours. Oui, ça ne va pas. Oui, il fait ça. Oui, il me fait encore ça. Oui, il recommence ça. Oui, il fait ça. Voilà. Oui, j'ai tel problème. Oui, j'ai telle addiction. Oui, 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 oui. Tu ne commences pas par là. Tu commences par traiter la relation ou le genre de relation ou le type de relation que la personne a avec Dieu, ce qu'il pense de Dieu, ce qu'il croit au sujet de Dieu, ce qu'il suppose sur les comportements de Dieu à son égard. Tu commences à traiter sur les choses de Dieu. Et la dernière fois où j'ai partagé la parole de Dieu avec vous, je vous disais que dans les 10 commandements, les 4 premiers parlent des choses de Dieu. Et puis les 6 autres parlent de l'homme. Tu traites d'abord la relation de la personne avec Dieu avant de traiter ses problèmes. J'ai souvent été très encouragé par ce verset biblique dans le psaume 138 où il est dit « Tu as augmenté la force de mon âme. » Tu te rends compte si Dieu augmente la force de ton âme, hein? Et puis le psaume 34 où il est dit « Je bénirai l'Éternel quand tout va bien. » Non ? En tout, je bénirai l'Éternel en tout. Quand vous êtes au courant, quand on a volé ma voiture, honnêtement, Stéphanie, elle est là. Oui, hein, Stéphanie, tu me disais, c'est toi qui as été me chercher quand on m'a volé ma voiture. Je n'ai plus de voiture pour venir au culte le matin. Hein? Et tu m'as dit, mais je suis étonné, tonton, parce que ça n'a pas l'air de t'inquiéter. Tu es comme ça et puis tu rigoles. Oui, pourquoi ? Parce que j'ai loué Dieu parce qu'on m'avait volé ma voiture. Et j'ai béni les gens. Puis je me suis dit, ben les gens, voilà. Et c'était l'occasion, on a retrouvé la voiture. On a retrouvé la voiture, ils avaient même mis de l'essence dedans. C'était super. Hein? Et puis, du coup, j'ai pu témoigner à des tas de gens. J'ai pu témoigner à comment offrir des Nouveaux Testaments, tout ça, y compris à la police à Dijon, où j'ai distribué des tas d'évangiles. Je suis revenu de Dijon, parce qu'on l'avait retrouvé sur un parking à Dijon. Eh bien, je suis revenu en louant, en bénissant Dieu tout le long de la route à Dijon, avec ma voiture, bien sûr. Hein? Bon. Mais honnêtement, je n'ai jamais râlé. Et puis, j'ai dit, bon, ben, c'est bien, voilà. Et j'ai loué Dieu. Donc, louer Dieu en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les débonnaires l'entendront et se réjouiront. Et j'aime beaucoup ce passage qui traite de la vie d'Église. Magnifiez l'Éternel avec moi. Exaltons ensemble son nom. Ça, c'est la vie d'Église. Parce qu'il y a une louange quand on est ensemble qui est différente que la louange quand je suis seul. C'est différent. C'est autre chose. Quoi. C'est autre chose. Hein? Voilà. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dieu nous délivre de toutes nos frayeurs. Il répond aux besoins de nos âmes. Il soigne et guérit les cœurs brisés. Il soigne et nourrit les cœurs qui vont bien mais qui ont besoin d'être nourris par le Saint-Esprit. Il remplit des haltères et enivre les âmes assoiffées. Et j'aime beaucoup ce passage où il est dit, ils ont regardé vers lui et ils ont été illuminés. Alléluia. Là, on n'est pas dans la religiosité, on est dans la vie. Amen. Je vous ai mis deux versets. Psaume 36, oui, c'est mis là, où il est dit, « Car par devers toi est la source de la vie, en ta lumière, nous verrons la lumière. » Parfois, il y a des choses que nous ne comprenons pas, que l'être humain ne comprend pas, que de façon humaine et charnelle, nous ne comprenons pas. Et un instant dans la présence de Dieu, et d'un seul coup, tu sais, et tu comprends, tu es en paix et tu es dans la joie. Et ça, donc, ce matin, on a demandé de prier pour des gens voilà, qui s'avançaient, et c'est très bien de demander la prière, c'est très bien, pas de problème avec ça. Mais souvenez-vous une chose, il y a des choses que personne ne peut faire à votre place. Johanna ne peut pas prier à votre place. Moi, je ne peux pas prier à votre place. On peut prier pour vous, on peut vous bénir, on peut vous mettre un petit plus, un petit coup d'eau chaude, momentané. Mais la réalité, sur vous, sur ce que vous êtes, sur l'état de votre âme, ça dépend de vous personnellement, de ce que vous croyez au sujet de Dieu, du temps que vous prenez avec Dieu, de la compréhension que vous avez de la personne de Dieu. Ça, c'est la foi. Et c'est en étant émerveillé dans la présence de Dieu que nos vies changent et sont fortifiées. Ça, c'est tout le temps comme ça, tout le temps. Hein? Et encore le psaume 93, qui dit aussi, comme l'autre psaume que nous avons lu tout à l'heure, le psaume 97, là c'est le 93, il est dit, « L'Éternel règne, il s'est revêtu de majesté. » Il y a une façon de penser selon Dieu, il y a une façon de réfléchir selon Dieu, il y a une méditation selon Dieu, il y a une culture selon Dieu. C'est ça la foi. La vraie foi est toujours émerveillée, éblouie, par celui qu'elle contemple. Le psaume 62 dit ceci, « Sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. » Dans la présence de Dieu, dans la confiance et le repos en Dieu, il y a une formidable sécurité. Il y a une sécurité. En Dieu, il y a une sécurité. Tu n'as pas peur du diable. C'est lui qui a peur de toi. Mais il ne te le dit pas, ça, il ne te le dit pas, bien sûr. Hein. Voilà. Hein. Et dans la présence de Dieu, dans la confiance et le repos en Dieu, il y a une formidable sécurité. Je vous ai mis le psaume 91. Il est dit, « Celui qui habite dans la demeure du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. » Être dans les bras du Tout-Puissant, c'est ce qu'il est dit, par exemple, dans le livre d'Ésaïe, « À l'ombre du Tout-Puissant, dans les bras du Tout-Puissant. » Alléluia. OK. L'œuvre que Christ a fait à Golgotha, on va prendre la scène tout à l'heure, une œuvre phénoménale à Golgotha. Comme je le disais la dernière fois, c'est le Dieu vivant, le créateur des mondes, celui qui est pleinement Dieu, qui a donné sa vie à Golgotha spécifiquement pour toi. À la croix, le Dieu créateur, celui qui a tout créé, le Christ, a accompli, a parachevé une œuvre phénoménale, une œuvre grandiose et excellente, l'œuvre du salut. Il a porté mes péchés, mes culpabilités, non seulement mes péchés, mes fautes, mais aussi ma nature pécheresse. Il a porté mes maladies, mes problèmes démoniaques, mes malédictions. Le Christ a tout porté à Golgotha pour moi, mais non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes de toutes les générations, à travers tous les siècles. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Il a porté tout ça comme un Dieu. Il a aimé comme un Dieu. Il est mort comme un homme. Le Christ a tout lavé, tout nettoyé, tout purifié. Les choses passées, les choses de son époque et les choses à venir. Il est mort pour les péchés après lui. Il est mort pour les péchés que tu feras, que je ferai demain. La Bible dit qu'il a tout lavé, tout nettoyé, en sorte que, aujourd'hui, je puisse recevoir le Saint-Esprit, devenir le temple du Saint-Esprit et être enfant de Dieu. Le Christ a tout lavé afin que je puisse vivre aujourd'hui la vie de l'Esprit. Je viens d'abord à Dieu, je reçois pleinement le salut. Je suis émerveillé par ce salut. Je suis émerveillé par ce qu'il a fait à Golgotha. Je suis émerveillé par la personne de Dieu, par l'excellence de la personne de Dieu, par la gloire et la magnificence de Dieu. Et lorsque je suis comme cela,
le Saint-Esprit prend le relais. La vie de l'Esprit coule.
La Bible dit l'Esprit de vie fait couler le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, tiens, la bienveillance, la maîtrise de soi coule. Alléluia. Donc, tout commence par ma relation avec Dieu. Tout commence par ma relation avec Dieu. Alléluia. Je vous ai mis ces deux passages bien connus, bien sûr, la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché. Puis ensuite, dans Romains 8, 11, où il est dit que l'Esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts va vivifier nos corps mortels. C'est-à-dire que Dieu te vivifie. Et il y a une puissance sur le péché. Si tu es émerveillé par la personne de Dieu, si tu es ébloui par l'excellence de l'œuvre de Christ à Golgotha, ce n'est pas une religion qui coule en toi, c'est la vie du Saint-Esprit, la puissance du Dieu vivant. En venant à Jésus, en entrant dans une vraie relation avec le Dieu vivant, tu permets au Saint-Esprit de prendre le relais. L'Esprit de vie coule, prend le dessus sur la chair, sur le péché, le fruit de l'Esprit coule en toi et autour de toi. Nous connaissons bien ce passage, celui qui est en toi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. S'il y a un problème dans ta vie, si tu es pris dans de mauvaises habitudes, par des addictions, par des accoutumances, par des péchés graves, par des disputes incessantes, par des colères répétées, par des jalousies, par des manques de pardon, la réponse est « viens à Jésus ». Cultive une vraie relation intime et détendue avec ton Sauveur. La Bible dit, Jésus disait « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Et le Saint-Esprit prend le relais. La vie de l'Esprit coule. Et tu deviens une nouvelle créature selon, comme il est dit dans 2 Corinthiens. Voilà. Cultive une relation vraie, intime et détendue avec ton Sauveur. Le Saint-Esprit prendra le relais. Je vous ai mis ça. Ouais, je ne sais pas. Bon. Émerveillé par la personne de Dieu et par son œuvre époustouflante à Golgotha, vivifié par l'Esprit, tu seras une créature nouvelle. Lorsque quelqu'un est englué dans le péché ou dans les mauvaises habitudes, cela est clair. Cela veut dire que la relation avec Dieu n'existe pas ou bien elle est à un niveau famélique ou à un niveau religieux. Soit que la relation réelle avec Dieu n'existe pas, elle est nulle, soit qu'elle reste pauvre, soit qu'elle demeure très mal engagée, très mal comprise, mal organisée ou maladroite. C'est donc la relation avec Dieu qu'il faut réviser, qu'il faut travailler, voire qu'il faut commencer. Toute ma vie va dépendre de la relation personnelle et intime que j'ai avec Dieu. Et je vais terminer avec deux passages bibliques. Un passage qui m'a beaucoup touché ces derniers temps, que j'aime citer, dans le livre des psaumes, psaume 92. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Et j'aimerais dire ceci. Lorsque quelqu'un est émerveillé par la personne de Dieu, lorsque cette personne a une relation vivante, joyeuse, reposée et paisible avec Dieu, alors cette personne aime le corps de Dieu, le corps de Christ. Elle aime l'Église du Christ. Cette personne est bien enracinée dans la maison de Dieu. Et là, dans la maison de Dieu, il y a une onction particulière, une présence particulière de l'Esprit qui fait que les gens vont grandir, fleurir, s'épanouir, mûrir, porter du fruit d'une façon particulière, parce que comme il est dit dans le psaume 133, c'est dans la maison de Dieu que Dieu a commandé la bénédiction et la vie pour l'éternité. Quand quelqu'un aime Dieu, il aime l'Église de Jésus-Christ. Quand quelqu'un, par exemple, critique les églises, critique l'Église, etc., critique bien sûr les pasteurs, etc., peu importe, le problème n'est jamais l'Église. Bon, on peut toujours des choses à améliorer. Ce n'est pas les pasteurs, il y a toujours des choses à améliorer chez les pasteurs. Le vrai problème, c'est la relation que la personne a, ou voire même n'a pas, avec Dieu. Écoutez, pas vous qui êtes ici, mais Nous connaissons tous des gens qui ont empilé des problèmes personnels très importants et qui ont régulièrement changé et changé et changé et changé d'église et qui ne vont pas mieux d'une église à l'autre. D'accord ? Parfois, des gens qui reviennent des dizaines d'années après et puis, voilà, ils ont besoin d'apprendre à vivre avec Dieu un nouveau type de relation. Alléluia. Toujours travailler la relation avec Dieu. Un chrétien a besoin d'être solidement planté dans la maison de Dieu pour fleurir, s'épanouir et porter du fruit. Nous vivons et nous œuvrons, nous travaillons sur cette terre pour de vraies valeurs, qui sont des valeurs, bien sûr, éternelles. Je termine donc avec ce passage qui est important. Après, nous prendrons la scène. Nous nous préparons pour l'éternité. Nous réfléchissons et planifions par rapport à l'éternité. Seul ce qui est éternel a du poids. Il y a le petit Samuel qui vient de naître, là. Quand un enfant vient de naître, moi, quand mes enfants sont arrivés, j'en ai eu 4 aussi, Bart, voilà, tu m'as égalé. Hein? La question, c'est toujours, comme je disais avec mon épouse, comme mon épouse me disait, Jean-Marie, on ne fait pas des gosses pour qu'ils aillent en enfer. Et même, je dirais, on ne fait pas des gosses pour qu'ils soient des gens religieux. On fait des gosses pour qu'ils vivent quelque chose de glorieux et de formidable sur cette terre. Qu'ils servent à faire bouger les lignes sur cette terre. Qu'ils rentrent dans la pensée de Dieu sur cette terre. Et puis, bien sûr, qu'ils construisent sur des valeurs éternelles et pour l'éternité. Alléluia. Donc, je ne vais pas trop le commenter, mais on va lire ce passage, bien sûr. Deuxième épître de Pierre. Il a dit, toutes ces choses devant donc se dissoudre. Oui, tout va. La Bible dit que Dieu va rouler hein, cette terre comme un vieux manteau. Ma belle collection de Bibles que j'ai, quand je pense qu'il va tout détruire. Bon, voilà. Toutes ces choses devant donc se dissoudre. Quel genre devriez-vous être en cette conduite et en piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles le bazar habite. Dans lesquelles la justice habite. Et l'apôtre Pierre termine en disant, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, et maintenant, au jour et jusqu'au jour d'éternité. Nous vivons face à Dieu, nous vivons face à l'éternité, nous vivons face à un Dieu formidable, extraordinaire et excellent. Nous l'aimons, nous l'apprécions, nous l'adorons. Alléluia. Amen. Nous allons partager la scène. Donc, comme on est habitué à le dire, quand on prend le pain et le vin, ce sont des symboles. Hein. Ce sont des symboles. Je répète, ce n'est pas le corps de Christ, ce n'est pas vraiment dans le pain. Hein. Voilà, ce sont des symboles. Hein. Nous nous souvenons de ce que Jésus a fait à Golgotha pour nous. Et la Bible dit que lorsque nous nous réunissons, la scène, c'est un repas d'amour. Et c'est... Alors, tu ne te sens pas... Oui, donc il y a des gens qui ont été désignés pour distribuer le pain et le vin. J'aimerais juste te dire ceci avant que l'on prie. Tu ne te sens pas obligé de prendre la scène parce que ton voisin prend la scène. Non, tu prends la scène, voilà. Parce que tu apprécies Dieu, parce que tu es émerveillé par Dieu, et tu vas sans cesse grandir en émerveillement. D'accord ? Tu vas sans cesse grandir en émerveillement. Si dans ta vie il y a des manques évidents de pardon, tu ne prends pas la scène. Voilà. S'il y a des disputes répétées et des colères répétées, tu ne prends pas la scène. S'il y a des impuretés, de la pornographie, de la fornication, des relations sexuelles en dehors d'un cadre légal de mariage, tu ne prends pas la scène. Si tu es dans des situations de mensonges répétés, tu ne prends pas la scène, ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 11, tu prendrais un jugement contre toi-même. Donc à toi de voir ces choses avec Dieu, ou avec les personnes concernées, avec qui, par exemple, tu es en manque de pardon. Et puis après, tu pourras prendre la scène avec la personne. Voilà. OK. C'est pas compliqué, l'évangile. OK. On se met debout, on se met tous debout. Et puis, on va prier. Seigneur, ce que tu as accompli à Golgotha pour chacun d'entre nous dépasse toute réflexion humaine. Ça a été fait par amour et ça a été réfléchi de toute éternité pour accomplir quelque chose de grand. Merci Seigneur parce que tu fais de nous tes enfants et tu nous as nettoyés avec ton propre sang. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce pain et ce vin que nous partageons et merci pour le grand sacrifice qui a eu lieu à Golgotha pour que nous puissions vivre. Merci Seigneur, merci. Nous remercions Dieu pour son sacrifice et nous l'applaudissons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. La Bible dit de battre des mains et de prendre la scène. Nous pouvons bien sûr faire les deux en même temps. Merci Seigneur. Merci. Voilà, on va distribuer le pain et le vin. Merci beaucoup.